et un, et deux, et trois, revers, et un, et deux, et trois, revers. Raffarin, si t'es champion, retourne, retourne. Raffarin, si t'es champion, retourne à la maison. Y a pas à dire, hein. L'euro de foot, ça déteint vraiment sur le discours politique des gens. Mais quand même, qu'est-ce que ça peut faire comme bien? Allez, salut Daniel.
Oui, voilà, Daniel, salut, c'est Cécile, je suis enseignante à Saint-Ouen, et puis ça fait longtemps que je voulais laisser un message pour dire que, ben oui, moi aussi, je suis comme beaucoup de gens que j'ai entendu sur ton répondeur, je soutiens vraiment les gens de l'EDF, ça me met dans tous les états de me dire qu'on va encore se faire avoir une fois de plus par cet affreux gouvernement pour lequel on a voté parce qu'on pensait que ça nous sauverait de l'extrême droite, voilà, et je voulais dire encore, ouais, que vraiment, moi aussi, je suis tout cœur avec les gens de l'EDF, et leur dire de pas céder, de continuer, tant pis, même si on doit avoir plein de coupures d'électricité, bah c'est pas grave, moi, je suis vraiment avec eux, mais à fond, à fond, à fond, voilà.
En cette période de post-débarquement 60 ans après, les élections européennes en France, il y avait quelques épreuves de philosophie aussi pour nos amis lycéens. Voilà. Alors, j'essaye de faire réviser mon gamin. Et puis, je suis tombé sur cet extrait. Voilà. La paresse et la lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, après que la nature les a affranchis depuis longtemps d'une direction étrangère, restent cependant volontiers leur vie durant mineurs. Et qu'il soit si facile à d'autres de se poser en tuteur des premiers. Il est si aisé d'être mineur. Si j'ai un livre qui me tient lieu d'entendement, un directeur qui me tient lieu de conscience, un médecin qui décide pour moi de mon régime, etc., je n'ai vraiment pas besoin de me donner de peine moi-même. Je n'ai pas besoin de penser, pourvu que je puisse payer. D'autres se chargeront bien de ce travail ennuyeux. Que la grande majorité des hommes tiennent aussi pour très dangereux ce pas en avant vers leur majorité, alors etc., c'est ce à quoi s'emploient fort bien les tuteurs qui, très aimablement, ont pris sur eux d'exercer une haute direction de l'humanité. Après avoir rendu bien sot leur bétail, et avoir soigneusement pris garde que ces paisibles créatures n'aient pas la permission d'oser faire le moindre pas hors du parc où ils les ont enfermées, ils leur montrent le danger qui les menace si elles essaient de s'aventurer seules au dehors. Or, ce danger n'est vraiment pas si grand, car elles apprendraient bien enfin, après, quelques chutes, à marcher. C'est un texte d'Emmanuel Kant, Qu'est-ce que les Lumières ? Voilà, 1798.
Emmanuel Kant, dans le répondeur, de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Voilà le message qui nous vient du temps des Lumières, grâce à vous. Aujourd'hui, où suis-je ? Je suis entre Bologne et Milan, dans le train qui me conduit vers Milan. Et à Bologne, eh bien, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que la gauche est revenue. La gauche est revenue à Bologne, elle s'en était absentée quelques temps. Et voilà que Sergio Cofferati a été élu à la mairie de Bologne, et donc la ville redevient rouge, enfin sinon rose foncé, et ce soir il y aura donc la fête. On va à Milan, ce sera la dernière étape de notre voyage et de notre enquête en Italie, à travers les années de plomb, c'est-à-dire les années 70, que beaucoup se refusent d'ailleurs à appeler les années de plomb. Et on pourrait imaginer une famille aujourd'hui qui se réunirait 20 ans, 25 ans, 30 ans après, autour d'un père âgé qui serait un vieux membre du Parti communiste italien, dont les enfants auraient vécu des aventures différentes. L'un aux Brigades Rouges, l'autre à l'OTA Continua, l'autre qui serait devenu un anarchiste délirant ou désirant, comme on disait à l'époque. Bref, des destinées différentes, comme si le père communiste avait eu des enfants différents, qui qui un jour se retrouveraient. Ils vont un peu se retrouver dans la série d'émissions qu'on va vous poser à partir de la semaine prochaine sur ces années de plomb, sur ces années qui furent pour certains leurs plus belles années et qui ont laissé quand même à tous un goût d'inachevé, un goût un peu amer. En tous les cas, si c'est les années de plomb, le plomb est toujours en fusion, et cette élection d'hier de Cofferati en est la preuve. Aujourd'hui, dans la Basse, si j'y suis, retour sur quelque chose qu'on voit souvent en Italie, c'est le travail immigré. On s'était penché sur cette histoire justement à Milan, sur le travail immigré, les travails clandestins. Et bien c'est ce qu'on va retrouver dans ce reportage de Thierry Scharf sur le bidonville rural.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Thierry Scharf. Là-bas, si j'y suis, le bidonville rural.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est pratique parce qu'ils sont, là en temps voulu. Puis après, quand ils ont fini, quand même, ils s'en vont volontiers.
C'est un rêve pour nous, ça. Venir ici.
On a un ou deux qui parlent très peu, mais eh ben, c'est là qu'ils bossent plus que les autres.
Ton patron, donc il sait que t'as pas de papier.
Ouais, il sait. Il a fait les cartes fausses.
T'as une fausse carte.
Aujourd'hui, on a 3 personnes à déclarer, mais il nous en faut 2 de plus. Comment on fait? Si tu vas taper aux portes n'importe où, ils sont là, ils n'ont pas. Oui, non, oui, non.
Ah, c'est sidérant là ce qu'on a en face de nous là. C'est un vrai bidonville quoi, qui est planté au milieu des serres. Ici on est à côté de Berre, là, des étangs de Berre. Bah voilà, c'est un bidonville avec des caravanes assez délabrées, des abris de fortune faits avec ce qu'on peut, des bâches en plastique, des cartons. Et c'est assez dissimulé, hein. On a roulé un moment avant de trouver ce qu'on appelle le gourbi. Mm-hmm. Et c'est vrai que finalement, c'est assez planqué. Quiconque ne passe pas par là, n'a pas d'activité agricole, on va dire, hein, ne voit pas ça.
La misère se cache toujours. Pourtant, le gourbi existe depuis plus de 20 ans maintenant, puisque déjà en 91...
20 ans ?
Plus de 20 ans. En 91, il y avait eu une intervention des forces de l'ordre déjà. Et puis, donc, ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Et déjà depuis quelques années. On va passer par là.
Ah, elles sont belles, hein, les oranges sur les marchés, les tomates, les épinards, les salades, enfin tout ça, c'est sympa, hein, d'aller faire ses courses avec son petit panier et puis tout ça. Mais dans quelles conditions tout cela est produit? Voilà, vous avez compris, on est dans le sud de la France, on est à côté de Berre, les fameux étangs de Berre. Et là, eh bien, il y a, je sais pas ce que ça veut dire exactement, gourbi, en arabe, mais en tous les cas, c'est un mot qui tient la route, celui-là, hein. On avait dit récemment dans cette émission qu'il n'y avait plus de bidonville en France, et évidemment, aussitôt, on s'est fait remonter les bretelles par des auditeurs qui nous ont dit, bon, il y en a encore, dont, celui-là. Celui-là, eh bien, il est habité une grande partie de l'année par des gens qui viennent une grande partie de l'année du Maghreb ou d'ailleurs et qui sont des saisonniers et qui travaillent à la production de ces légumes et de ces fruits qui font le charme de nos tables. C'est une vieille histoire que celle des saisonniers. On va essayer de comprendre comment, dans quelles conditions ils travaillent, quel est le mécanisme, en fait, tout simplement, de criminalisation de la misère. Comment on fragilise, comment on exploite, comment on fait suer. Jadis, c'était le burnou de l'autre côté de la Méditerranée. Comment ça se passe ici? Et comment aussi les exploiteurs, les petites entreprises, elles-mêmes se trouve coincé par les impératifs de commercial des grandes surfaces, et comment les grandes surfaces sont évidemment assaillies par nos demandes à nous qui voulons manger des tomates toute l'année, qui voulons manger du raisin toute l'année, qui voulons qui sommes habitués à des à une culture maintenant d'un type de consommation. Je ne dis pas que c'est nous qui sommes responsables de l'exploitation qui va être décrite au cours de cette heure, mais nous y avons une part, non pas de responsabilité, mais nous sommes liés. C'est-à-dire qu'entre ce gourbi et puis le marchand de légumes du coin de la rue, il y a un lien, et c'est ce lien que nous avons avec Thierry Scharf voulu aujourd'hui jusqu'à 18h sur Inter mettre en valeur.
Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. Ça donne bonne mine, c'est plein de vitamines. Vitamine ABC, c'est bon pour la santé. Les acrobates, les pêcheurs, les diplomates, les boxeurs. Délaisse les patates, pour se fouiller garate. La tomate en salade, tomate farcie. Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, nuit et jour. À la pomme qui éclate, préférons les tomates. Les tomates, ça fait mal quand ça tombe sur le nez.
Oui, mais quand on les mange, c'est bon pour la santé.
Mange des tomates, mon amour. Mange des tomates, mon amour.
Vous avez une canne, Mohamed, à côté de vous, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé?
C'est 1988.
En 88, oui.
Je travaillais contrat armé. Quand j'ai fini contrat armé, je retourne mon pays.
Depuis 88, vous faites des contrats OMI? Et puis, à chaque fois, vous revenez au pays?
Voilà. Voilà. Quand j'ai fini la saison de travail, et je tourne mon pays.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail?
Je travaillais sur les tomates.
Les tomates?
Les courgettes.
Les courgettes.
Les aubergines. Les olivies. Un jour, j'ai dit à mon patron, mais tu payes les heures supplémentaires, tu payes, parce que le contrat, il prend la charge du contrat, 2000 francs par an et 800 francs prolongation.
C'est-à-dire?
Pour avoir un contrat de 6 mois.
Il payait un intermédiaire ou directement au patron, vous payez pour avoir un contrat OMI?
Il profite. Le patron.
Au patron, vous payez directement au patron pour avoir le contrat.
Oui, ça, c'est tout à fait illégal. Sur les heures supplémentaires. Elle aimait. Quand tu ne payes pas le contrat, l'année prochaine, je ne fais pas de contrat pour vous. Reste là-bas au Maroc.
Oui, si vous ne payez pas le contrat, vous en aurez pas d'autre.
Voilà. Et il a dit, chaque année, ils prennent 2000 francs et 800 francs de prolongation de contrat de travail.
800 francs en plus, si vous prenez, pour prolonger le contrat. Voilà.
Et alors, l'année dernière, le mois de décembre, 3 décembre 2002, je tombais accident de travail, je tombais sur le dos, je glissais mes pieds de la droite.
Donc là, vous avez eu un accident de travail sur le dos?
Voilà.
Vous êtes tombé de quoi?
Il est tombé sur un escabeau qui cueille les pêches.
Les olives. Ah,
les olives.
Le patron, quand il a vu qu'il était en accident de travail, il l'a mis dehors.
Eh oui.
Parce qu'à cause d'accident de travail, il a dû toucher l'accident de travail exprès, etc. Et il a dit, on a fait plus le contrat l'année prochaine. Et reste pas chez moi, on va chercher quelqu'un et loger.
Vous avez viré, vous avez dit d'aller voir ailleurs.
Je fais pas exprès, ça arrive. Et il a dit, non, je reste pas chez moi. Tu sors. Tu sors pas, je m'appelle la police ou le gendarmerie, tu sors, obligatoire. Là, بغيت نقول انا اللي ضيعت الصحه تاعي وضيعت في الخدمه.
Il a perdu sa santé, il a perdu son travail, il a perdu son logement, il a plus rien maintenant, il a pas de logement où habiter, il a plus de papiers et il sait pas où aller, hein.
Aujourd'hui, vous êtes illégalement sur le territoire, vous avez plus de titre de séjour qui vous permet de rester, hein. Et vous, pour vous faire soigner, vous êtes obligé de rester. Vous avez des examens là.
Voilà.
Hein? Comment vous allez faire?
Alors,
le préfet a donné sa décision et ils ont demandé que dans les 48 heures, il fallait qu'il reparte chez lui, reconduite à la frontière.
Et vous êtes toujours là?
Il a dit, moi j'ai eu un accident ici, je ne peux pas me soigner au Maroc, je me soigne ici. Alors vous dites que je peux aller mourir au Maroc. Le patron, il les prend quand ils sont en bonne santé. Mais quand ils ne sont plus en bonne santé, qu'ils sont malades, ben, il n'a plus besoin d'eux, hein, il les prend plus.
Et donc là, vous vivez dans la peur d'être expulsé tous les jours.
C'est pas comme quand elle est en règle. Là, il n'est pas en règle, donc il vit dans la peur, il est triste dans sa vie, il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas comme quand, s'il avait sa carte de séjour, bon, ben, ça serait autrement, mais là...
Est-ce que vous pensez que le patron qui vous employait était raciste?
Il est raciste, mais il est gentil, il fait le gentil, quoi. Parce qu'il n'y a pas que lui qui est un accident de travail, il y en a 9.
Il y en
a qui sont tombés qu'il y a un arbre qui est tombé sur un, qui s'est cassé la jambe et tout, il l'a mis dehors. Hein.
Travailler en France, c'est très intéressant pour vous économiquement.
Nous maintenant, ici, on est en France. Donc on travaille en France, il travaille pour 30 francs.
Par heure.
Ouais.
Mais l'argent, il revient au Maroc quand même.
Il dépense pour manger, il est obligé de manger, et le reste, il envoie à ses enfants. Ses enfants, ils sont obligés de manger aussi.
Donc votre famille, elle vous attend là-bas?
Mes familles, ma femme, trois enfants.
Trois enfants.
Là, on vit au Maroc.
Vous voulez pas rester ici en France?
Il
veut
pas rester en France, il repartira si on lui donne, par exemple, puisqu'il peut plus travailler, s'il a une pension, s'il a autre chose, il partira.
Déjà, John Steinbeck décrivait les conditions des saisonniers en Californie il y a bien longtemps. Dans cette émission, il avait rencontré des saisonniers en Floride, les Haïtiens de Floride, les Cubains aussi de Floride. Le saisonnier, le personnage du saisonnier et les conditions faites aux saisonniers sont anciennes et se retrouvent dans beaucoup de pays dans le monde, et y compris dans notre beau pays. Les saisonniers sous contrat, c'est-à-dire les saisonniers agricoles étrangers sous contrat OMI, on va savoir ce que c'est que ces types de contrats, mais qui ont un caractère tout à fait légal, nous intéresse depuis quelque temps. Tout le monde semble découvrir l'existence de ces travailleurs immigrés et les conditions assez lamentables dans lesquelles ils exercent en toute légalité leur activité. En fait, il s'agit d'un contrat de type tout à fait féodal, parce que ces travailleurs n'ont de saisonniers que le nom. Ils sont employés massivement dans les Bouches-du-Rhône depuis plus de 30 ans maintenant, et jusque-là, ils n'ont jamais fait parler d'eux. Évidemment, ils n'ont pas intérêt à la ramener, hein, c'est l'Omerta. C'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls à avoir voulu faire des reportages sur leur vie, mais à chaque fois, eh bien, les gars n'y tiennent pas beaucoup. Non, faites pas parler de nous. On n'a pas envie de se faire repérer, et nous, on n'a pas non plus, voilà. Ils n'ont pas envie. Mais là, tout d'un coup, ils redressent un petit peu la tête, et ils sont appuyés par un collectif de défense des travailleurs étrangers dans l'agriculture provençale, des saisonniers, et c'est Guy Marigot, il s'appelle Guy Marigot, oui, c'est un exploitant lui-même de la Confédération Paysanne qui nous donne des précisions sur ce qu'on pourrait appeler l'homme omis.
un contrat omis, c'est une personne qui vient travailler en France. La France a des accords bilatéraux avec la Pologne, le Maroc et la Tunisie. Bon, le statut de l'ouvrier omis, ça veut dire office des migrations internationales. Le statut omis, c'est un statut qui dit que la personne peut venir travailler en France pendant une période de 6 mois, avec une prorogation de 2 mois possible, mais en aucun cas, ça peut dépasser 8 mois. Surtout, en aucun cas, elle peut rester 1 an en France d'affilée. Elle est obligée de rester 4 mois dans son pays d'origine. Un des gros inconvénients de ce statut, c'est qu'il est lié à un employeur et une personne. C'est-à-dire que l'employeur demande à cette personne de venir travailler chez lui, il lui fait un contrat. À la fin du contrat, s'il ne veut plus renouveler, il n'a pas de rupture. Il suffit que l'employeur ne renouvelle pas ce contrat, sans motif. De cette manière, il y a des salariés qui viennent en France sous statut omis depuis 20 ans, 25 ans, et n'ayant jamais eu une année entière en France, ne peuvent pas revendiquer, ne peuvent pas demander un titre de séjour. C'est-à-dire que ces gens-là n'ont jamais été en France.
Ça concerne combien de personnes, ces fameux contrats omis, là, ici?
À peu près 10 000 sur le territoire national, dont 4 500, 4 800 sur les Bouches-du-Rhône. Il y a un réel problème, quoi. Les gens ici, les qu'ils soient étrangers avec un titre de séjour ou français, ne veulent pas faire ces travaux, qui sont des travaux pénibles, il faut dire ce qui est, hein, mais qui sont payés d'une manière dégueulasse. Quand vous voyez des salariés qui vous disent, salariés omis ou clandestins, parce qu'il y a beaucoup de clandestins également, qui vous disent nous sommes payés à 5 euros et d'autres disent nous sommes payés à 3 euros de l'heure, qui aujourd'hui accepte de travailler dans ces conditions? Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'agriculture provençale et toute agriculture de maraîchage ou de production de fruits et légumes a un besoin de salariés saisonniers, d'ouvriers saisonniers. Ils ne nous viennent pas à l'idée de dire les exploitations doivent embaucher des ouvriers permanents. C'est faux. On sait que pour la récolte, il y a des à-coups de production. Et il faut des saisonniers. Tout à fait d'accord. Là où nous allons contre ce statut, c'est que le statut de l'OMI permet à l'employeur qui ne veut pas renouveler d'avoir un droit de chantage abominable sur les personnes qui sont embauchées. Il suffit, le salarié est un peu âgé, un peu usé, fatigué, il a pris conscience que depuis 20 ans qu'il est en France, il a des droits, il doit être payé d'une manière correcte. Vous dites, cher ami, c'est bien, l'année prochaine, vous ne revenez plus. Et le gars ne peut plus rien faire, parce que dès que son contrat est fini, dans les 8 jours, il faut qu'il rentre chez lui au Maroc. Même s'il est malade, il doit rentrer chez lui.
Dix mille en France, selon Guy Marigot, 4 800 dans les Bouches-du-Rhône, avec ces contrats omis, plus les clandestins. Et combien de clandestins? Alors là, évidemment, on n'en sait rien, avec des revenus de l'ordre de 5 euros ou mieux, et de 3 euros l'heure. C'est quand même pas, ça permet pas de s'engraisser beaucoup. Et puis, ces contrats omis qui finalement laissent d'un tout l'arbitraire à l'employeur qui décide de qu'il reprendra l'année suivante. Là-dessus, il a tout loisir de reconduire ou non le contrat pour l'année suivante. Et puis, ces employeurs qui se font payer pour embaucher l'année suivante, et alors avec des sommes qui peuvent être tout à fait rondelettes. Voilà ce qui est derrière ou avant les jolies petites mandarines qui sont sur cette table dans cette jolie maison. Alors, bon, les employeurs sont-ils tous des salauds? Évidemment que non, il y a des braves gens, et puis il y a des gars qui font ce qu'ils peuvent. Rencontre avec Monsieur Épinard.
C'est des gars qui bossent pour vous, là?
Moi, j'en ai au contrat saisonnier, contrat pendant 5 mois.
Ouais.
La saison, nous, on fait septembre, mars. Ouais.
Qu'est-ce que vous faites, là, comme culture, vous?
On fait que de la culture d'épinard, nous. Que de la feuille d'épinard, que ça.
Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les gars, là? Ils sont en train de débroussailler un peu les serres, là.
Là, ils débroussaillent un peu les serres sur le bord du plastique parce qu'avec le désherbant, on n'arrive pas à tuer cette herbe. Il y a certaines herbes qu'on n'arrive pas à tuer.
Alors, et vous en avez combien de migrants, comme ça, là, de saisonniers?
Saisonniers, on en a 4 ans. Et un omis, je crois. On en a 5 en tout. Donc quand même, on a quand même une 15 hectares.
Ah oui, c'est pas mal ça.
Un tunnel, ça fait droit de superficie. Hein. Nous, au niveau des centrales, pendant 7 mois, tous les jours, ils nous appellent. Et tous les jours, ils ont leur quantité qu'il faut. Ça, c'est une main d'œuvre qui reste pendant 6 mois avec nous. Ouais, ouais.
Voilà. Ça, c'est flexible, c'est pratique, ça.
C'est pratique parce qu'ils sont, ils sont là en temps voulu. Puis après, quand ils ont fini, quand même, ils s'en vont volontiers. Hein.
Pourquoi?
Parce qu'ils en ont marre. Hein.
Alors, c'est dur comme boulot.
Ah, c'est dur.
Et ces gars-là, vous les embauchez régulièrement depuis longtemps?
Là, on a une équipe, ça fait à peu près... Il y en a qui ont 2 ans, 3 ans et 4 ans. Ils reviennent, s'ils ne reviennent pas, ben on change, on prend des plus jeunes. On essaye de prendre des équipes de jeunes. C'est plus productif et ils sont moins agaçants. Les autres, ils commencent à être plus...
Ah ouais, quand ils ont un peu de...
Oui, ils ont un peu de graines. Hein. Alors, tandis que les jeunes, bon, ils sont... Et puis, ils sont plus compétents pour nous.
Et quand vous dites agaçant, c'est quoi?
Ben agaçant, c'est vous leur dire que aujourd'hui, mettons, il y a une journée dure à faire, et ben ils vont prendre le même rythme, non? Ils vont pas donner un coup de collier, rien. Voilà.
Ouais.
Et pour nous, ça, dans l'agriculture, ça compte beaucoup. Non? Surtout qu'on a les camions qui chargent le soir, les camions qui chargent le soir, entre 7h et 8h, il faut que le matin, ils sortent sur Régis à 4h du matin. Alors quand il faut donner un coup de collier, ben il faut y aller. Hein? Voilà. Mais il y en a quelques mois là-bas, ils ne comprendront jamais.
Ah bon? Pourquoi?
Mais parce que ça me fout.
Et vous arrivez à parler avec eux? Parce que beaucoup ils parlent pas français.
Bon, maintenant il y en a de moins en moins. Ça. On a un ou deux qui parlent très peu, mais eh ben, c'est là qu'ils bossent plus que les autres. Ceux qui parlent fort français, ils bossent plus que les autres parce qu'ils veulent s'intégrer dans le milieu.
Ah ouais.
Et ça fait très peu longtemps qu'il est là. Et ouais. Il veut faire voir qu'on a le meilleur, ouais. Voilà.
Alors vous prenez, ça arrive de prendre des pas déclarés aussi, ou quand c'est des coups de bourre?
Quand il nous arrive un coup de bourre, comment on fait? Aujourd'hui, on a 3 personnes déclarées, mais il nous en faut 2 de plus, comment on fait? Tu vas taper aux portes n'importe où, ils sont là, ils nous donnent pas, oui, non, oui, non. Le premier qui passe, on paye la journée, puis c'est fini. Il faut dire la vérité.
Ouais. Ces mecs, ça se bouscule en plus ici dans la région. Hein?
Hein?
Ça se bouscule dans la région, il y en a plein.
Ça se bouscule. C'est-à-dire là, il y a le paquet, là. Depuis ce matin, je crois qu'il y en est passé 14.
Non, depuis ce matin.
Ouais. À moi.
Ouais, seulement chez vous.
Hein? C'est dingue. Et sur 14, il doit en avoir, disons, une carte qui en est papier. Et 10 qui sont commencés à l'aventure. Alors, je comprends pas pourquoi ils font pas quelque chose. Aujourd'hui, ça y est sur le journal. Hein?
C'est un rêve pour nous, ça. Venir ici.
خلتنا حيارى اطلب يا عسل. من متى وكيف؟
سألوك الآن إلى هذه الطريقة من الأسئلة السريعة. كنت تغنين
Voilà Hassan qui écoute la radio de son pays. On est à Berre, l'étang de Berre, dans le sud de la France, dans ce que tous les gens du coin appellent le Gourbi, un bidonville à peine dissimulé depuis des décennies, où se succèdent au gré des saisons les saisonniers étrangers, immigrés, qui viennent travailler avec ces contrats, donc ces contrats omis qui sont, on a compris, formels, mais qui permettent l'exploitation nécessaire au type de production de ces légumes, fruits et légumes dans cette région. Alors évidemment que quand on sait que au Maroc par exemple le même travail est payé 4 euros par jour on comprend pourquoi, pour quelqu'un comme Hassan, c'est un rêve de venir en France. C'est pas seulement le goût de l'exotisme, c'est aussi que voilà, il va gagner 4 à 10 fois plus en France que dans son pays, et en travaillant comme un malade, comme un esclave, dans des conditions absolument dégueulasses. Mais quelques mois, mais il va pouvoir rentrer au pays, survivre avec sa petite famille. Et c'est une main d'œuvre très appréciée par nos gentils négriers, parce que généralement, ce sont des gars qui, dans leur pays, sont eux-mêmes des agriculteurs, des paysans, donc ils connaissent le travail de la terre, et ils sont d'autant plus appréciés. La question, c'est évidemment, faut pas qu'ils deviennent trop exigeants. Il faudrait pas qu'ils redressent trop la tête et qu'ils commencent à réclamer des salaires à peu près décents, des assurances maladie et toutes ces horreurs dont la France, heureusement, est en train de se débarrasser, et que nous détruisons avec méthode depuis un certain nombre d'années. Quelques instants avec Hassan dans son gourbi.
Voilà de la soupe. Elle est utilisée surtout le mois de Ramadan, parce que c'est un peu léger. Oui. On est à jeun toute la journée. On commence par la soupe de l'orge. Oui. C'est pas du blé, c'est de l'orge. Mm-hmm. Elle n'est pas lourde pour l'estomac.
Alors ça, c'est ton chez toi, là, dans tes caravanes.
Oui, c'est mon caravane, ça.
Ah, c'est tout petit.
Oui, je suis seul, bien sûr. C'est mieux.
Toi, tu es jeune, t'as quel âge?
J'ai presque 26. Pas encore, mais le mois de janvier, j'ai fait 26 ans.
26 ans. Ouais. Et tu vis là depuis combien de temps, toi?
Ici, en France.
Oui, dans cette caravane, là.
Le mois de 1er février de cette année.
Et en France?
Plus au mois de janvier. J'étais dans un autre pays européen. Mmh. Oui. Et j'y rentre aussi. Hein.
C'est toi qui l'as fait, la soupe, là?
Ah oui, bien sûr, c'est moi qui fais tout. Hein. Je n'ai jamais fait le repas dans ma vie.
C'est ma mère.
Je n'ai jamais fait le repas, moi. C'est ici que j'apprends à faire tout ça. Ah. C'est ma mère qui fait tout.
Eh oui, et la maman, elle est loin, là?
Ah oui, bien sûr.
Elle est où, la maman?
Au pays.
Ouais. C'est où, le pays?
Pays maghrébienne.
Ouais. On va rester. Ouais. Flou volontairement. Toi, tu as des papiers, toi?
Non.
Non?
Oui. Ah si, j'ai le papier, je ne reste pas ici. Oui, sûr. Ouais. Tu vas manger un peu de soupe, hein?
Oui, ouais, avec plaisir.
Merci. Chaque matin, le boulanger nous apporte le pain.
Ah bon?
Oui. C'est un boulanger arabe.
Et toi, tu travailles dans les champs, là, dans les serres?
Oui. Ouais. Tomates.
Tomates?
Pour le moment, c'est des tomates.
Alors toi, tu voulais venir en France?
Oui, j'ai envie de venir en France comme tous les jeunes de mon pays. C'est un rêve pour nous, ça, venir ici. Dans notre région, il y a beaucoup de gens qui vivent ici, en France. Migration, beaucoup. En été, ils rentrent chez nous. Tous les jeunes de 17 ans, de 18 ans, de 16 ans, ils ont des voitures, des cabriolets, etc. Alors que nous, là-bas, on n'a rien. On voit ça. Oh, putain. Je vais aller en France.
Tu voulais le cabriolet aussi?
Ah, bien sûr, le cabriolet, la femme, la maison et tout. Et on arrive quand même. C'est un peu difficile, mais...
Comment t'as fait?
Un visa normal pour un pays européen. J'ai resté dans le pays que j'ai donné 3 mois. J'ai entré ici.
C'était quel pays?
C'est le Pays-Bas.
Et là, tu te retrouves dans le gourbi, là, dans le bidonville?
Oui, malheureusement. On est habitué par ça.
Tu t'habitues?
Oui.
À la misère?
Oui. Il y a des problèmes d'électricité, de douche, de l'eau.
C'est-à-dire qu'il n'y a ni douche, ni électricité, ni eau.
Ah, c'est ça le problème. Rien. L'eau, tu regardes, quand on achète des bouteilles d'eau. C'est tout. Lorsque j'ai quitté mon pays, ça fait exactement... On est le 13. 11 mois et 4 jours.
Ah, tu comptes les jours?
Ouais, bien sûr, tu comptes les jours. Je me rappelle bien des dates.
Et tes parents, ils connaissaient la France?
Mon père travaillait ici par contrat OMI.
Ah, ton père travaillait ici avec les contrats OMI?
Oui.
Il y a beaucoup de gens arabes ici, de mon pays, oui. De mes cousins, beaucoup de gens ici que je le connais, moi.
Et ton père, alors, pendant très longtemps, il est venu ici avec des contrats omis?
Depuis 68, depuis que je suis né.
Et donc, tu as toujours vu ton père faire l'aller-retour, oui, oui. Ici, la Berre, ton pays?
Tu as revu mon père 4 mois avec moi, 8 mois ici.
Ah, vous êtes croisés, alors?
Oui. Je n'arrive même pas à parler, à discuter avec lui. Hein. C'est un homme bizarre pour moi. Le reste de l'année, il est ici. Mon père, c'est un homme bizarre pour moi.
Et Hassan, qu'est-ce que tu fais alors pour gagner de l'argent là? Tu travailles en ce moment?
Oui, je travaille. La tomate.
Donc clandestin quoi?
Oui.
Tu trouves des patrons qui t'embauchent?
Oui.
Sans problème?
Lorsqu'ils sont pressés, il y a beaucoup de travail. Et vite travailler, vite, vite. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Allez, dégage-toi. On n'a rien. C'est ça.
Et Hassan, il y en a beaucoup comme toi? Travaille là, dans le coin, sans papier?
Oui, il y a beaucoup.
Ton patron, donc il sait que t'as pas de papier?
Oui.
Ici, il y a des centres de flics régulièrement ici. Il y a eu des policiers qui sont venus souvent ici.
Oui. Maintenant, on ne dort pas presque la nuit.
Vous avez peur? Vous dormez pas de la nuit?
Ah, bien sûr. Regarde, chaque nuit, je viens qui regarde des fenêtres.
Ah, t'as la fenêtre juste à côté?
Oui, avant de sortir, pour mettre un coup d'œil.
Ça se passe près de chez nous, tout ça. Hein, ça se passe à Berre, étang de Berre, Marseille. Ils sont environ 200 dans ce gourbi, dans le coin autour de Berre. 4500, 4800 dans les Bouches-du-Rhône, 10 000 en tout en France, avec ces contrats omis, je l'ai dit tout à l'heure, sans parler évidemment des clandestins. Alors, évidemment, ça fait une main-d'œuvre docile, silencieuse. Vous avez vu, dès qu'il y en a un qui bouge l'oreille, hop, il se retrouve dehors, corvéable à merci. Et puis, il faut bien insister encore une fois, il n'y a aucun, ce contrat omis n'ouvre aucun droit aux assédiques, ni à la couverture sociale, dès la fin du contrat, alors que les salariés omis cotisent au même titre que les autres travailleurs. Ça s'appelle une exploitation. Alors évidemment, on va trouver le cas de l'exploitant agricole qui est un type qui se débrouille, qui est un brave type, qui est un type honnête, qui peut montrer des fiches de paye impeccables de ces des gens qui l'emploient. Il y en a, ça se trouve. Mais enfin, disons que c'est plutôt assez rare. Voilà ce qu'en dit Guy Marigot du collectif de défense des travailleurs saisonniers, lui-même étant un exploiteur, enfin l'exploitant, on va dire l'exploitant, il va nous dire après tout à l'heure comment il a été lui aussi conduit à se conduire de cette façon. Et il est fait partie de la Confédération paysanne, Guy Marigot.
Les contrats précaires que sont les contrats omis permettent de mettre la pression sur les contrats à durée indéterminée. Par contre, le clandestin, on fait un fromage là avec le clandestin, mais le clandestin est absolument nécessaire. Si vous n'avez pas le clandestin, comment est-ce que vous allez faire pression sur celui qui est déjà précaire? C'est tout. Et après, pour faire pression sur le clandestin, vous avez quoi? Vous avez l'esclave. L'esclave qui travaille gratuitement. Hein. C'est ça, le principe de... Alors on peut l'appeler libéralisme, on peut l'appeler capitalisme, on peut l'appeler comme on veut. Le principe, c'est qu'il faut toujours, à un moment donné, trouver quelqu'un qui acceptera, parce que sa condition est beaucoup plus fragile et précaire, qui acceptera de bosser pour moins cher et dans des conditions encore pires que celui qui est au-dessus de lui. Mais après,
Au-dessous, ça veut dire quoi? Le soutier, c'est quoi? Le soutier, le dernier, c'est l'esclave. Alors, vous avez l'esclave, au-dessus, vous avez le clandestin. Quand on nous dit on combat le travail clandestin, c'est complètement la même faux. Le travail clandestin est nécessaire pour une économie française et européenne qui a besoin d'avoir des coûts de production qui sont très bas. Donc le clandestin est nécessaire pour faire pression sur le salariat en règle, qui sous la forme de l'OMI, qui lui-même fait pression sur le salariat tout à fait syndiqué, hein, et ainsi de suite.
La pression sur l'homme, dans ce système-là, c'est la même chose que la pression sur les légumes. Quand on suit l'histoire maintenant des fruits et légumes les 30 années passées, ici, dans la région, mais en Europe, c'est un peu généralisé.
Peter Gerber.
Les grandes exploitations, il y a de plus en plus, il y a une concentration d'une production agricole, et on est obligé de produire de plus en plus, avoir un rendement de mètre hectare de plus en plus important. Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, la pression sur les paysans était moins grande. Et aujourd'hui, sans vouloir l'excuser, mais ce qui est quand même vrai, quelqu'un qui veut survivre dans la logique de ce système-là, qui essaie pas de faire autre chose, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut économiser de l'argent, pas sur l'engrais, pas sur l'eau, sur rien du tout, sauf le main-d'œuvre. Et ben, il le fait. Il le fait. Il y a presque une pression des structures modernes, productivistes et tout ça, qui oblige le paysan de, ben, s'il croit à ça, il fait avec. Et, il joue le jeu. Et un jeu que tôt ou tard, ça va bloquer quelque part, parce que c'est vrai. Ça traite l'homme comme on traite les légumes. On fait des trucs de plus en plus dégueulasses, qui ont de plus en plus d'eau, qui ont de moins en moins de goût. On le paye de moins en moins bien. C'est un système qui va trouver ses limites.
Et comment ça se passe le travail? Combien ils te payent?
Il y a des gens qui ne sont pas déclarés, qui travaillent à 5 euros.
5 euros de l'heure?
Oui.
Et toi?
Moi déclaré, j'ai les fiches de paie et tout.
T'as des fiches de paie?
Oui, j'ai les fiches de paie.
Ah, parce que t'as une fausse carte?
Oui.
Et toi, t'es persuadé qu'ils savent que c'est une fausse carte?
Oui. Moi, j'ai un contrat. Je vais vous montrer quelque chose, une minute. Moi, j'ai un contrat, 20 heures par semaine.
20 heures par semaine?
Seulement par semaine et 85 par mois. Alors regardez avec moi, lundi 8, mardi 8, mercredi 8, jeudi 8, vendredi 8, et samedi normalement 8, mais moi j'étais malade de ne pas aller.
Ouais.
48. Ouais. Et c'est déclaré 20 heures seulement.
Ah oui, c'est ça. Et t'en fais au moins le double. Et t'es pas le seul dans le cas.
Ah oui. Tous les gens qui n'ont pas les papiers.
Ici, par exemple, je sais pas, un mois de travail, ça te rapporte combien de fois plus que chez toi?
Ici, on gagne, par exemple, si on disant 5 euros par heure. 5 euros. 5 euros net par heure. À notre pays, on n'arrive pas à gagner de 5 euros par toute la journée. Pendant 8 heures.
Ça me dit. Donc, tu gagnes au moins 8 fois plus ici, au moins.
Le principe, c'est qu'on travaille. Parce que je veux rentrer chez moi, hein. Je veux pas rester ici toute ma vie ou...
Ah, tu veux rentrer chez toi?
Bien sûr. Qu'est-ce que je veux rester faire ici? Coucher des policiers comme des criminels ou... Non, non, non.
Voilà le système. On l'a vu fonctionner en Italie récemment encore, hein, à Milan dans les reportages qu'on a fait. On l'a vu à Sangatte. Pourquoi est-ce qu'on se précipite vers la Grande-Bretagne? Eh bien, c'est que là, on sera un sans-papier qui fragilisera le clandestin, qui fragilisera le précaire, qui fragilise l'intérimaire, qui fragilise l'employé, qui fragilise, etc. C'est un système de fragilisation de façon à ce que tout le monde accepte, les uns et les autres acceptent d'être une main-d'œuvre docile, corvéable, silencieuse, étant donné le système de production et de profit dans lequel nous nous sommes installés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est pas plus facile que ça. Guy Marigot, Confédération Paysanne.
On avait une exploitation, on peut dire, de type industriel, même si elle était petite. Hein,
vous savez. Et vous, vous avez renoncé à ça?
On a décidé de quitter ce système pour deux raisons. La première, c'est que nous avons compris que c'était un système suicidaire. Hein, parce que à force de produire, d'être obligé de produire de plus en plus, avec de moins en moins de frais, et surtout de moins en moins la possibilité de perdre un pourcentage de la récolte, parce que vous avez une marge qui est tellement faible que vous ne pouvez plus vous permettre de perdre, mettons, une salade sur 20. On a compris que ce système était suicidaire, et puis il était suicidaire parce que de plus en plus il nous poussait dans nos derniers retranchements, c'est-à-dire que vous ne pouviez plus vous permettre de sauter un traitement, vous deviez plutôt faire un traitement supplémentaire parce que vous ne pouvez pas vous permettre dans ces conditions de perdre une salade sur 20.
Un traitement, c'est quoi?
Un traitement phytosanitaire. Donc, vous traitez à outrance parce que vous n'avez pas les moyens de dire, j'accepte un petit peu de casse.
C'est la course aux chimies, pour être sûr que...
C'est la course au zéro défaut, parce que si vous plantez 15 salades au mètre carré, vous devez en ramasser 15. Si vous en ramassez 12, vous êtes mort. Parce que les deux qui restent, c'est votre bénéfice, quoi. Et on se rend compte petit à petit qu'on ne peut plus payer correctement ses salariés. Voilà. À un moment donné, quand on a des convictions et qu'on ne met pas des actes au bout de ces convictions, moi je considère qu'on est un voyou. Alors moi j'aime bien quand je me rase, j'aime bien me regarder dans les yeux dans la glace, quoi. Et puis voilà.
Vous en sortez bien.
Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est évident. Jeter ma comptabilité.
Ça veut dire quoi? Vous faites des produits bio?
On a réduit notre production de, on va dire, 80% à peu près. Hein. Nous valorisons directement tout ce que nous produisons. Nous vendons directement tout ce que nous produisons. Pourquoi produire 100 tonnes vendues 10 alors qu'on peut produire 10 tonnes vendues 100? On arrive à 1000 aussi. C'est ça. Pour quelle raison laisser à la grande distribution le loisir d'engranger les bénéfices de la qualité? Nous, c'est un choix que nous avons fait. Hein.
Oui, mais peut-être que vous ne produisez pas aussi les mêmes choses.
Non, on pourrait produire les mêmes choses. Mais c'est un choix, attention. Je ne dis pas que c'est la
vérité. C'est-à-dire qu'à l'arrivée, ça ne nous coûte pas le même prix aussi, nous, consommateurs.
Vos produits. Oui, ça vous coûte légèrement moins cher, oui.
Ah bon?
Mais évidemment. Voyons, vous imaginez que les grandes surfaces travaillent pour rien? Vous plaisantez. Hein. Quand vous achetez de la tomate qui est produite à 3000 bornes de chez vous, vous imaginez qu'elle arrive comment? Par la volonté du Saint-Esprit, elle arrive en camion.
Et moi, je fais comment à Paris, moi, pour acheter vos tomates?
C'est peut-être un peu caricatural ce que je vais vous dire, mais pour quelle raison voulez-vous manger de la tomate au mois de février, d'abord? Hein? Parce qu'à Paris, il y a de la tomate qui pousse aussi au mois de juin, par exemple, ou au mois de mai. Hein, après tout, puis à Paris, au mois d'avril, vous pouvez manger des petits pois, vous pouvez manger des oignons. C'est ça la richesse et la diversité. Je veux dire, aujourd'hui, l'uniformité, c'est le couillon qui mange de la tomate en janvier, en juin, en juillet, en novembre, en décembre. Moi, au mois d'avril, je mange des petits pois, je mange des oignons. Au mois de novembre, je bouffe des cardes, je mange des céleri. En juillet, je mange de bonnes tomates. En août, je mange des melons. Et moi, je mange des choses différentes toute l'année. Pour quelle raison voulez-vous que je fasse des conserves ou que j'achète des bidules qui, de la tomate par exemple, qui fait 2000 km pour venir jusque chez moi, 2000 km en roulant dans un camion polluant, conduit par un esclave, sur une autoroute en bitume, qui extrait du pétrole. Ça veut dire quoi, ça? Alors, le summum de la connerie, c'est la tomate bio qui fait 3000 km pour venir à Paris. Ça, là, d'ailleurs, il faut l'encadrer pour l'emplâtrer, quoi.
Il y avait un commerçant, je vous dis qu'il était chaland. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5h du matin, il chantait ce gai refrain. Ces carottes puis ces navots, venez voir comme ils sont beaux.
Oh, on en a des légumes,
des carottes puis des navots et des betteraves puis des poireaux.
Oh oui, on en a des beaux choux,
des patates puis des tomates, on en a des roues des ventes. Quand le temps est arrivé, elle a commencé à chanter. Viens d'en voir mes échalotes, seulement qu'elle dissout la botte. Des radis, puis de la salade, des betteraves, puis de la rhubarbe. J'ai du vrai sirop d'érable, c'est avec la cassonade.
Oh, on en a des légumes,
des carottes, puis des navots, et des betteraves, puis des poireaux.
Oh oui, on en a des beaux choux,
des patates, puis des tomates, on en a des roses, des ventes.
Des légumes, des carottes, des navots, des betteraves, des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux,
des patates, des tomates, on en a des
légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes
carottes, puis des navots et des betteraves, puis des poireaux. Oh oui, on en a des bonjours, des patates, puis des tomates, on en a des rouges, des barres. Oh, on en a des légumes, des carottes, puis des navots et des betteraves, puis des poireaux. Oh oui.
Oui, salut, c'est Delphine Delain. Eh ben, tout simplement, je voulais réagir par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Eh ben, dis donc, ça fait froid dans le dos, tous ces immigrés clandestins qu'on exploite à gogo. En fait, moi, je suis prof de français. Ce matin, on a travaillé avec les élèves sur un groupement de texte de l'esclavage, avec les philosophes des Lumières comme Voltaire, Montesquieu, qui condamnaient l'esclavage. Et on se posait la question avec les élèves, la barbarie moderne, qu'est-ce que ça donnait aujourd'hui? Eh ben, dis donc, quand on écoute ton émission, j'aurais dû l'enregistrer et puis surtout la passer aux élèves. Parce que crois que ça leur donnerait une bonne conscience politique. Allez, ciao, et continue Daniel, surtout à éveiller nos consciences. Ciao.
Ben, j'appelais en fait pour vraiment pour remercier pour cette émission, j'avoue, qui m'a donné vraiment beaucoup de plaisir. Moi je viens du Vaucluse, je suis né là-bas, j'ai passé une bonne partie de ma vie, je continue à y retourner parce que j'ai pas mal de famille, entre Bolène et Orange. Et je voudrais dire que tout ce que vous avez décrit là, ben moi je l'ai vu tous les jours quoi. J'ai des vignes juste devant chez moi. Bon, moi-même j'ai bossé dans les vignes. C'est faire couper les sarments, faire les vendanges dans la boue avec la pourriture parce qu'ils avaient essayé de tirer un petit peu pour faire monter le degré de sucre dans le raisin. Et un certain nombre de fois, et ben dans les vignes et en hiver pour couper les sarments ou en automne. Bah, il y avait pas grand monde autre que des rachides ou des gens des pays de l'Est, etc., etc., surtout à l'heure actuelle. Et que les types qui votent FN, bah, c'est aussi des types qui emploient ces types-là. Alors, moi, j'ai une proposition. Mariani, qui est le député du Vaucluse. Pourquoi, puisque c'est un ami proche de Jacques Chirac et donc, j'imagine, de Nicolas Sarkozy, pourquoi, à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il prend pas tous les gens en situation irrégulière et qu'il les vire pas pendant un an? Et puis après, on verra qui c'est qui pleure. Après, on verra tous ces pauvres types qui votent FN, bah, qui tout d'un coup vont dire, mais attendez, mais nous, on est mort. Économiquement, on est mort. On vit plus parce qu'il n'y a plus des rachides pour aller couper les sarments et qu'il n'y a plus de types pour aller faire les vendanges, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas un Français qui va vouloir faire ça. Alors voilà, moi, ma suggestion, elle est là. Et je salue pas Monsieur Mariani qui préfère s'occuper des rave parties plutôt que d'aller faire le ménage un petit peu devant sa porte. Voilà. Allez, ciao.
Bonjour Jean-Claude, représentant notamment dans les grandes surfaces alimentaires et autres. Je viens d'écouter l'émission d'aujourd'hui. Je suis hyper écœuré de voir qu'il y existe encore des systèmes comme ça en France, que la grande distribution est à la base de l'exploitation de l'humain. Tout ça parce qu'elle veut être tous les jours de moins en moins chère et tous les jours ranger de plus en plus de bénéfices. C'est écœurant et ça m'a donné envie de vomir. Merci à Daniel, salut.
Ça fait plaisir d'entendre des choses aussi sensées à la radio. Il est vrai que, pour ma part, je fais mes courses chez le boucher du coin pour la viande, au marché le dimanche pour les fruits et les légumes. J'ai fait des comparaisons par rapport à la grande distribution et je peux vous dire très franchement que ça vaut beaucoup plus le coup d'aller faire ses courses chez les petits commerçants du coin. Au moins, on sait pour qui on donne notre argent et on applique ce principe à tout le monde à la maison. Notre petite fille ne mange pas de petits pots, ni prépare des bonnes choses avec des légumes du marché. Et je peux vous garantir qu'au niveau budget, tout le monde s'y retrouve et au moins, on sait qu'on a fait une bonne action. Voilà, c'était Sandrine à Montpellier.
C'était le bidonville rural de Thierry Scharf. Plus d'informations à votre disposition sur le site de là-bas si j'y suis en allant sur franceinter.com. À la technique, Lydwin Caron et Olivier Daligo, réalisation Coy Nguyen, assisté de Yann Chouquet et Pascal Pascariello, chef de répondeur Christophe Imbert.